Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série intitulée « Quelques conseils que la Bible nous donne pour notre vie ». Nous arrivons à l'étude numéro 5 et nous terminerons par cette étude, cette série. Et déjà, le Seigneur m'a donné dans le cœur, dans l'âme et l'esprit une nouvelle petite série très importante. Vous verrez. Donc, premièrement, pourquoi donc me mettre en quatre puisque ce sont toujours les autres qui l'emportent sur moi? Cette prière est au Seigneur pour qu'il me vienne en aide à cause de mes pensées liées au fait qu'un de mes frères ou de mes parents est devenu un notable influent et fait désormais partie des autorités. Ce n'est pas rien. Courage, car le Saint-Livre me dit « mon bonheur à moi, vous l'avez compris, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu, car dans le Seigneur, l'Éternel, dans le Seigneur l'Éternel, j'ai placé en lui mon espérance. » Psaume 73, verset 28. J'ai pris cela dans une édition allemande, mais rassurez-vous, ça doit être à peu près pareil dans votre version. Chers amis, voyez-vous, la jalousie combinée avec l'envie vont souvent de pair. Si je considère ce que des camarades de classe ont fait de leur vie, leur réussite professionnelle, je ne vais pas seulement les envier, je vais déplorer ma propre situation. La lassitude et le découragement vont s'installer et ma vie, elle n'aura plus de goût du tout. Des pensées vont m'envahir. Des pensées, j'ai bien dit, mais ce n'est pas toujours les bonnes, vous l'avez compris. Oui, la vie est belle pour les autres, c'est ce que je vais penser. Mais Dieu, il semble qu'il n'a pas pensé à moi. Il ne m'a pas offert la chance d'avoir un bon job. Personne ne fait attention à moi. Je ne vaux pourtant pas moins, il me semble. Je ne vaux pas moins que cet homme célèbre ou que cette femme dont parlent tous les journaux du monde, et tout cela, il me semble que c'est vraiment injuste. Et je m'enfonce alors dans une vie assez triste. Inutile alors de me comparer aux autres. Seul m'aidera la sainte parole qui démasque mes jérémiades. Mon bonheur, c'est d'être près de Dieu, oui, dans le Seigneur. C'est en lui que j'ai placé mon espérance. L'espérance est différente de l'attente d'être aussi célèbre que cet ami ou ce parent. Elle me fait vivre, j'espère, en ce que Dieu m'offre à tout instant. Alléluia. Deuxièmement, mon travail m'ennuie au plus haut point. Et comment? Voyez-vous, contre la tentation de l'ennemi qui rejette le travail et plonge le gore, tout le corps dans la somnolence, eh bien la Bible me donne une, on peut dire, en quelque sorte, presque un électrochoc. Voici ce qu'elle dit, la Bible. Jusqu'à quand, paresseux que tu es, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu somnoler, un peu croiser les bras pour reposer, et comme un rôdeur viendra ta pauvreté et ton indigence comme un homme d'armes. Proverbe chapitre 6, verset 9. Sur le point de me rendre à mon travail, je prétends que ma voiture refuse de démarrer. Pourquoi pas? Je suis contrarié. Aujourd'hui, tout va de travers. Par-dessus le marché, j'ai mal à la gorge. Une aubaine. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne vais pas aller au bureau. Je n'ai plus le même enthousiasme pour mon travail. Je me sens surmené. Mes collègues n'hésitent pas, eux, à s'absenter quand ils sont souffrants. Pourquoi n'en ferais-je pas autant? Nous ne sommes pas à court de prétextes, chers amis, pour ne pas aller travailler, et nous sommes vite enclins à prendre tel ou tel symptôme physique pour un véritable malaise. Lorsque l'envie nous quitte et que nous n'avons plus goût au travail, le corps le montre aussi, il le montre à sa manière, et nous avons alors toutes les raisons de rester à la maison. Dans une telle situation qui justifie notre oisiveté, le livre des Proverbes interroge « Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Chers amis, cessons de nous demander si nous allons nous rendre ou non à notre bureau et posons-nous plutôt cette question biblique. Nous allons alors nous réveiller, oui, réveillez-vous et nous allons nous mettre en route et ce soir, nous rentrerons heureux. Troisièmement, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Oui, pourquoi le sort s'acharne-t-il sur moi? Pour l'âme qui, à cause d'une maladie du corps, se laisse envahir par l'ennui, voire par l'angoisse. La Bible dit « La fureur de Yahvé, je la supporterai, parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse justice. » Il me fera sortir à la lumière et je verrai sa justice. Michée, dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 9. La maladie est interprétée ici comme étant une épreuve que le Seigneur m'envoie pour que je puisse passer de l'obscurité à la lumière. Les coups durs que sont la maladie ou le malheur nous déroutent à ce point parce que nous ne savons pas les interpréter. Ils sont ténébreux, incompréhensibles, parfois même mystérieux, et nous laissent dans l'obscurité. L'absurdité des événements assombrit le sens de notre vie, nous ôte toute tonicité intérieure et nous précipite dans l'angoisse, dans la lassitude et le découragement et dans la dépression. Interpréter une épreuve par le biais de la parole de Dieu, cela nous donne la force de lui tenir tête et de gagner en maturité, au lieu de nous ravir notre force, la maladie va nous en donner. Interpréter les coups durs de l'existence est une démarche très subtile, car nous pouvons faire fausse route et nous enfoncer plus encore. Certains voient dans leur malheur une punition divine et se croient damnés. Eux aussi se trompent dans l'interprétation de leurs épreuves. Ils sont aveugles, ils ne voient pas, ils ne voient dans la parole de Dieu que la justification de leur propre peur ou de leur pensée confuse. Quatrièmement, la vanité est le plat des sots. C'est la vaine gloire. Sachez que je suis le seul ici, c'est ce que je pense, je suis le seul ici à avoir de bonnes idées. Qu'est-ce que je suis orgueilleux. Et c'est d'ailleurs ce que disent aussi les autres. Eh bien, voyez-vous, contre une pensée vaniteuse telle que tu es toi hautement considéré parmi tes frères, un homme de Dieu reconnaît et dit « Je suis un homme pauvre et méprisable ». Et ce n'était pas n'importe qui a dit cela. 1 Samuel, chapitre 18, verset 23. Il est un fait que le succès peut me monter à la tête. Je me crois au-dessus des autres. Je savoure mes réussites. La pensée de l'estime des autres ne me quitte pas. Je me les représente complimentant en quelque sorte mon travail, admirant même mes idées. Pourquoi pas? Je m'imagine sur la scène d'un théâtre avec un public qui m'applaudit et j'en oublie même mes propres limites humaines. À ces fantasmes de ma supériorité, je vous oppose la réponse du fameux David. Oui, David, au serviteur de Saül. David a dit « Je suis un homme pauvre et méprisable. Seul celui qui a le courage, d'être modeste et de reconnaître ses faiblesses atteindra la véritable grandeur. Celui qui, au contraire, construit son propre podium pour s'élever au-dessus de tous ses semblables, va vite en tomber. En reprenant contact avec ce sol qu'il risque de perdre dans sa soif de gloire, il est alors douloureusement confronté à sa propre position modeste. Cinquièmement, pour faire réfléchir ceux qui œuvrent activement dans l'Église, dans leur communauté, contre la pensée vaniteuse de celui qui préfère enseigner aux frères les commandements de Dieu plutôt que de les mettre lui-même en pratique, cela existe parfois. Alors la Bible nous dit, celui qui violera un seul de ses commandements les plus petits et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui pratiquera et enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 19. Les plus grands moralistes ne furent pas toujours ceux qui mettaient en pratique ce qu'ils attendaient des autres. En confrontant leurs semblables à leur part d'ombre, Ils masquaient ainsi leur propre peur de se confronter aux leurs. Ils pestaient contre le mal par crainte du mal qui existait surtout en leur cœur. Ils exigeaient des autres le respect des commandements parce qu'ils voulaient échapper, eux, à leur propre désordre intérieur. Mais la vérité nous rattrape toujours un jour ou l'autre. Nous qui sommes investis de la charge de prêcher, avons le devoir d'annoncer les commandements de Dieu. Mais nous ne devons pas perdre de vue la parole de Jésus, selon laquelle est grand celui qui les enseigne et les pratique. Si je cherche moi-même à mettre en œuvre les commandements divins, je parlerai toujours de leur observation avec humilité, au lieu de brandir la menace ou d'en appeler à un perfectionnement euphorique en m'élevant au-dessus de ma propre condition humaine. Sixièmement, je travaille, oh oui, je travaille au moins 11 heures par jour. On ne peut pas faire autrement si l'on veut faire du bon travail. Eh bien, contre la pensée vaniteuse, parfois, de celui qui veut tirer une gloire du mal qu'il se donne à accomplir sa tâche, la Sainte Bible nous dit, « Celui donc qu'il se vante du Seigneur. » 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, « Qu'il se vante surtout du Seigneur et non pas de lui-même. » Bien accomplir son devoir et son travail, ça, c'est une bonne chose. Mais travailler, c'est servir l'autre. Et je falsifie ce sens si je travaille pour me mettre uniquement moi-même en valeur et pour prouver à mes semblables que je me dépense beaucoup et avec succès. Je ne suis plus alors au service de l'autre, mais je suis au service de mon propre ego. En m'imprégnant de la parole de l'apôtre Paul, qui dit que celui qui se vante, qu'il se vante surtout du Seigneur, alors là, je vais enfin pouvoir réduire lentement au silence ces tentations vaniteuses qui me poussent à mettre en avant mes propres performances. Septièmement, tout orgueil est une défense, la défense d'une place vide. Ceci à l'intention d'anciens fumeurs reconvertis. Oui, contre une pensée orgueilleuse qui me glorifie et me porte au nu comme si je ne laissais plus prise aux tentations impures, la Bible dit Abraham prit la parole et dit « Voici que j'ose parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Genèse, chapitre 18, verset 27. Oui, nombreux sont ceux qui s'étant débarrassés d'une dépendance, oui, d'un fléau, d'une habitude, pensent qu'ils vont entamer une vie totalement nouvelle. Le fumeur, par exemple, qui croit qu'il en a fini pour toujours avec la cigarette, ou l'alcoolique invétéré qui boit une bouteille de vodka le matin en se levant et qui pense qu'il va rester sobre à vie, ou encore le lève-tard, plutôt très tard, qui se transforme en lève-tôt. Mais ces, entre guillemets, faux convertis se mettent ensuite à lutter avec véhémence exagérée contre ceux qui sont encore sous l'emprise de ces dépendances. L'agressivité dont ils font preuve montre qu'ils n'ont pas encore complètement résolu leurs propres problèmes. Certes, ils l'ont combattu, c'est vrai, mais la dépendance est toujours en eux et peut à tout moment refaire surface. Oh, j'en sais aussi quelque chose. Certains se déplacent donc et ils pensent qu'ils ont vaincu un défaut et peut parfois empêcher d'en détecter un autre qui pourrait surgir. Il n'est donc pas si facile de changer de peau. Nous sommes en mesure d'améliorer des choses en nous, c'est vrai. Et certes, certains peuvent être transformés dans la rencontre avec Dieu et comment ? Mais nous devons toujours reconnaître avec Abraham, je viens seulement de commencer, je suis encore un débutant, je ne dois jamais oublier que je suis poussière et cendre. Il ne m'appartient pas de m'élever au-dessus de tous mes défauts et de toutes mes tentations. Ils peuvent à chaque instant venir me hanter. Huitièmement, mais enfin, les anciens n'ignoraient-ils pas tout du stress contre la pensée de l'orgueilleux qui nous conseille de mépriser nos ancêtres sous le prétexte que leur mode de vie n'était pas plus pénible que le nôtre, voire très pépère. Le mot pépère, vous savez ce que ça veut dire, être nonchalant, de pouvoir faire les choses lentement, car le temps ne compte pas. Eh bien, la Bible dit, « Sache que devant les cheveux blancs, tu te lèveras et tu honoreras la face du vieillard. Ainsi, tu auras crainte de ton Dieu. Je suis Yahvé l'Éternel. » Lévitique chapitre 19, verset 32. Pensons par exemple au nouveau patron de l'entreprise qui lui dénigre celui à qui il succède. Or, en critiquant ainsi ceux qui m'ont précédé, je me déprécie, c'est bel et bien le mot qu'il faut dire, je me déprécie moi-même. Et cela est aussi vrai pour toute communauté. Lorsque une famille décrit ses ancêtres, elle se coupe de ses propres racines. Quand une communauté chrétienne, par exemple, et comment, il y en a, hein, mais j'aime pas parler de cela, c'est pas bien. Quand une communauté chrétienne critique les premiers chrétiens en leur reprochant d'avoir eu la vie facile, eh bien, ceux-là même vont perdre de leur force, car ce sont les racines de nos aïeux qui nous font vivre. Or, en les salissant, nous freinons la force qui en émane d'eux. Pensons à la mise en garde du Lévitique qui nous exhorte à nous lever devant un vieillard et à l'honorer, car en fin de compte, honorer nos ancêtres, c'est, il me semble, respecter notre propre origine. Oh, je dis pas cela parce que j'ai bientôt 90 ans. Neuvièmement, cet homme-là, je l'ai connu. Il faisait autrefois la plongée et à la force de ses poignets, il est devenu millionnaire. À l'intention des adeptes du rêve américain. Prière au Seigneur pour qu'il vienne en aide à l'orgueilleux qui dénie l'aide de Dieu et impute la victoire à sa propre force. Alors là, la Bible dit, ce n'est pas à mon arc que je me confie, et ce n'est pas mon glaive qui me fait vainqueur, mais c'est toi, notre Dieu, qui nous sauve de nos adversaires et qui confond ceux qui nous haïssent. Psaume 44, versets 7 et 8. Chers amis, nous attribuons souvent notre réussite à notre énergie et à notre compétence. Nous avons fait quelque chose de notre vie parce que nous nous sommes donné du mal. Nous imaginons que le succès nous revient à nous seuls et que nous sommes au-dessus des autres. Or, pour lutter contre ces pensées, je vous encourage pas d'avoir ces pensées-là, que nous connaissons nous tous, dès lors que nous nous comparons à nos semblables, eh bien, je vous propose ce verset du psaume qui dit « Ce n'est pas à mon arc que je me confie et ce n'est pas à mon glaive qui me fait vainqueur. » En d'autres termes, ce n'est pas à mes compétences que je dois finalement la réussite de ma vie, mais à la bénédiction, uniquement à la bénédiction de Dieu. L'énergie dont je fais preuve, je l'ai reçu de Dieu. Je ne pourrais considérer mon succès avec reconnaissance que si je suis reconnaissant à Dieu de ses grâces. Mes réussites sont toujours des cadeaux de Dieu. Elles ne proviennent jamais de mon seul mérite. Oh non! Dans la reconnaissance, je peux être fier de ce que j'ai accompli, mais au lieu de me glorifier moi-même, je dois toujours louer celui qui m'a offert tous les dons que je possède. Dixièmement, pour ceux qui pensent que tout ce qui est nouveau est forcément séduisant, eh bien contre la pensée orgueilleuse qui se considère elle-même comme juste et n'est pas bienveillante vis-à-vis de quelque chose qui a été fait par les personnes avant lui, la Bible dit « Parce que quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. » Vous avez compris, quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Saint Luc, chapitre 14, verset 11. Un exemple. L'entraîneur d'une équipe sportive qui qualifie de minable son prédécesseur va très vite apprendre que le tout nouveau, tout beau, ne dure qu'un temps. De même, celui qui dans l'entreprise pense que tous ses collaborateurs sont limités et que parce qu'il est arrivé maintenant, tout va aller beaucoup mieux. Mais il va vite se rendre compte que sans les autres autour de lui, il ne peut rien construire de solide. Si je les dévalorise en me fanfaronnant, en m'élevant moi-même pour me valoriser, je ne pourrai rien attendre de positif de mes collaborateurs. Avec mon arrogance, je vais droit à l'échec et vite, je vais m'apercevoir que toute tentative de faire mieux que ceux qui m'ont précédé se heurte à des limites. Je dois donc faire mon travail et m'acquitter de ma fonction dirigeante aussi bien que possible, et je dois demander surtout la bénédiction de Dieu. Mais je ne dois jamais me mettre sur un piédestal si je ne veux pas subir le même sort que mon prédécesseur. Un chef qui ne médite pas sur ceux qui étaient à sa place et ne les blâme pas va obtenir de la même équipe un investissement tout nouveau, parce qu'il va se concentrer sur ses acteurs concrets et il ne va pas tourner seulement autour de sa propre personne et de sa propre grandeur. Onzièmement, regarde cette espèce de goinfre. Ces gens-là ne savent même pas se contrôler. Vous vous promenez un dimanche, vous passez devant un restaurant, et là, surtout l'été, vous voyez sur la terrasse un couple avec un merveilleux repas, peut-être même une bouteille de vin devant eux. Et là, j'ose pas dire la suite, car c'est souvent honteux. Contre cet orgueil qui conduit à penser que celui qui mange n'a pas la maîtrise de son âme, la Bible dit que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Romains, chapitre 14, verset 3. Ce que nous n'avons pas en nous ne nous émeut pas. Si je m'insurge contre celui qui mange trop, à mon idée, parce que c'est moi qui crois cela, parce que je suis jaloux et me crois supérieur à lui, si je raconte à qui veut l'entendre qu'il ne sait pas se dominer, eh bien, c'est finalement de moi que je parle et de ma propre incapacité à me maîtriser. J'en suis peut-être capable en matière de nourriture, mais, il y a très certainement en moi des domaines sur lesquels je n'ai pas du tout le dessus, des besoins qui me gouvernent, ne serait-ce que ma vanité et mon orgueil. Tel frère ne se compare pas aux autres et ne se situe pas au-dessus d'eux. Non, mais il remercie. Et si c'est une sœur, elle remercie Dieu de n'avoir que peu de besoins. J'exhorte donc celui ou celle qui ne mange pas à ne pas juger celui qui mange trop, à se retenir de toute considération, de tout jugement et de toute appréciation. Ainsi seulement, il ou elle trouvera la paix. Et deuxièmement, pour terminer cette série, depuis que je pratique la méditation tous les matins, sans compter une heure de yoga, je suis parvenu totalement à mon centre, au virmana, ou je ne sais pas comment on dit. Le monde m'est donc devenu tout simplement indifférent. Voyez-vous, chers amis, contre cette fière pensée qui me pousse à me glorifier de ce que la prière non seulement m'a délivré de l'assujettissement à mon ventre, mais a pris aussi le dessus sur ma colère, la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. j'ai peiné plus que tous, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Chers amis, dès que l'on progresse dans la vie spirituelle, on pense être au-dessus de tous les besoins matériels. Je n'ai donc plus besoin de problèmes, car j'en aurai plus jamais, ni avec la nourriture, ni non plus avec mon irascibilité et ma colère. Celui qui se félicite ainsi n'est pas tout à fait, oh pas du tout, à l'abri d'une attaque de boulimie, et si quelqu'un s'avise de le critiquer rudement, il n'est pas sûr du tout, surtout, qu'il puisse maîtriser sa colère. Nous ne devons jamais nous glorifier d'être parvenus à quelque chose de formidable, tant nous pouvons vite être rattrapés par ce que nous croyons avoir vaincu. Nous devons être reconnaissants de pouvoir en ce moment maîtriser notre besoin de nourriture et de ne plus sentir, on peut dire, de colère en nous. Mais avec saint Paul, nous ne devons jamais oublier que nous n'y sommes parvenus qu'avec la grâce, par la grâce de Dieu, et surtout pas par nous-mêmes, uniquement par grâce. Si nous pensons ne devoir ce succès qu'à nous-mêmes, à moi-même, si nous ne nous en remettons pas à la grâce de Dieu et ne faisons confiance que à notre propre force, alors nous nous apercevrons vite que tout ce que nous avons vaincu peut un beau jour s'effondrer à nouveau. Je ne vous le souhaite surtout pas. Amen. Nous allons terminer maintenant par la prière et je voudrais vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Ensuite, nous prierons ensemble et j'essayerai de vous mettre quelques chansons, quelques cantiques d'un assez lointain passé, 1958, et comme vous le comprendrez, en ce temps-là, les CD n'existaient pas. Alors, vu le temps 1958, les paroles ne sont pas toujours très audibles. Voici donc les strophes de ce cantique. Soleil de justice, salut des pécheurs, d'un regard propice réjouis mon cœur. Répand dans nos âmes la paix, la santé et les pures flammes de ta charité. Reçois nos cantiques, Jésus, roi des rois. Au cœur angélique, nous joignons nos voix. Nous voulons sans cesse célébrer ta mort, tes soins, ta tendresse et ton long support. Prions. Ô notre Dieu, tu nous as recueillis avec les serviteurs fidèles de tous les temps dans la Jérusalem céleste, dans tes tabernacles éternels, au pied de notre Sauveur, pour le célébrer à jamais. Que seront auprès des conceptions les plus belles et les plus grandes de notre intelligence et de notre cœur, les réalités du ciel ? Et auprès des aspirations et des soupirs de la terre, la joie qui attend dans ta gloire les rachetés de Jésus. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as révélé, quelque chose de cette gloire et de cette joie pour nous soutenir et pour nous encourager au milieu de nos difficultés de tous les jours. Que la pensée du salut que notre Sauveur nous a acquis, nous accompagne sans cesse et que notre cœur s'assure et se réjouisse en lui. Ce ne sont pas des images que tu nous présentes, ô notre Dieu. Toutes tes paroles sont véritables et certaines. Prépare-nous pour cette vie où il n'y aura plus ni deuil, oui, ni cri, ni travail, où la mort ne sera plus, où toutes choses seront faites toutes nouvelles, et où tu seras toi-même tout en tous. Que chaque jour soit pour nous un jour de progrès dans la vie de la foi et de l'amour, et que ta grâce et ta paix habitent dans notre cœur et dans notre maison, par le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, j'essaie de vous mettre quelques cantiques de ce assez loin passé. Il faut
Dans nos optimes, nous conduisons. Je vous remercie.